faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
La mort d'une légende du basket. Kobe Bryant s'est tué dans un accident d'hélicoptère hier. Sa fille et 7 autres personnes étaient à bord. Il n'y a pas de survivants. Kobe Bryant avait 41 ans. Il a pris le relais de Michael Jordan au sommet du basket mondial dans les années 2000. Retraité il y a moins de 4 ans après une immense carrière.
C'était il y a tout juste un an, le 26 janvier 2020. Le monde entier fut frappé de stupeur à l'annonce de cette mort brutale et cruelle. Kobe Bryant, super-héros du basket américain, icône de la culture populaire, oscarisé à Hollywood, un homme-machine à la fois fascinant et un brin angoissant. Kobe Bryant avait aussi sa part d'ombre, nous y reviendrons. Et une question persiste, que dit Kobe Bryant de l'Amérique en ce début de 21e siècle ? Au programme ce soir, donc, trois invités fins connaisseurs de la NBA, la Ligue de basket américain. Tout d'abord, Jacques Monclar, ancienne gloire du basket français, aujourd'hui consultant sur la chaîne Bein Sport, où il commente entre autres les matchs de la NBA. Jacques, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, deux journalistes de l'équipe, Maxime Mallet, ex-correspondant du journal aux États-Unis, et Yann Onona, grand reporter et auteur d'une biographie consacrée à Kobe Bryant. Yann, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio ce soir. Football et guerre cathodique. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, Kobe Bryant, vie et destin du Black Mamba.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Ce soir, on va donc causer basket américain, un sport devenu très populaire en Europe, avec des matchs retransmis la nuit en direct sur les écrans français et commentés entre autres par Jacques Monclar. Mais savez-vous quand est apparue pour la première fois la NBA, qu'on appelait à l'époque la NBA, vous allez voir, à la télévision française? C'était le 18 mai 1972, dans l'émission de l'ORTF « Les coulisses de l'exploit », un reportage intitulé « Des paniers et des dollars ».
Grande première pour le basketball professionnel américain sur le petit écran français. Dimanche 27 février, 21h, Houston, Texas. Les Golden State Warriors affrontent les Houston Rockets. Golden State et Houston font tous deux partie de la ligue professionnelle la plus importante de la NBA, ou National Basketball Association. Le basket pro, c'est d'abord un show. Une rencontre professionnelle dure 48 minutes, 8 minutes de plus que chez les amateurs. Ceci tout simplement pour faire d'un match un spectacle assez long pouvant se suffire à lui-même. Il dure autour de 2 heures, tous arrêts de jeu compris. 4 quarters par match, 12 minutes par quarter. Pour accélérer le jeu au maximum, le rendre plus spectaculaire, une équipe a 24 secondes pour tirer au panier. En 24 secondes, il faut d'abord faire la remise en jeu, traverser le terrain, trouver une faille dans la défense adverse, une position de tir, enfin shooter. Un exploit à soi seul. Aux quatre coins du terrain, vous pourrez peut-être apercevoir les pendules qui décomptent les 24 secondes.
Eh oui, toute une époque, un reportage signé Jacques Manval, pionnier donc de la NBA en France. Toujours au rayon basket américain, voici l'histoire du dimanche soir. Lorsque Kobe Bryant est né à Philadelphie en 78, Jimmy Carter était en poste à la Maison Blanche et Francis Coppola offrait au monde son Apocalypse Now sur la guerre du Vietnam. En janvier 2021, Carter et Coppola sont toujours en vie. Mais Kobe Bryant, lui, est mort depuis un an dans le crash de son hélicoptère en Californie. Basketteur hors norme, Kobe Bryant a eu le temps néanmoins de se forger une légende américaine. Ascension, gloire, puis déchéance avant la rédemption et enfin destin brisé. Une icône supplémentaire au panthéon des mythes états-uniens.
Kobe Bryant.
Le 18 décembre 2017, Kobe Bryant entre définitivement dans la légende. Le 8 et le 24, ces deux numéros ne seront plus jamais portés par les Lakers. Le jeune retraité revient ce jour-là sur ses 20 ans de carrière avec la franchise de Los Angeles.
Ces jours où tu te lèves tôt pour travailler dur, où tu restes tard pour travailler dur, ces jours où tu ne peux pas travailler, tu es trop fatigué, tu ne peux pas donner le maximum et tu le fais quand même, c'est ça le rêve, ce n'est pas la destination, c'est le voyage.
Un travailleur acharné, en effet, fan de Michael Jordan, il n'a que 17 ans lorsqu'il est sélectionné pour la première fois. Quelques années plus tard, il formera un duo mythique à Los Angeles avec le monstre Shaquille O'Neal. Le Black Mamba remportera 5 championnats, 2 titres olympiques et marquera près de 34 000 points en NBA. Depuis sa retraite, Kobe Bryant s'était essayé à autre chose, comme ce court-métrage d'animation récompensé par un Oscar.
Dear basketball.
Cher basketball, dès l'instant où j'ai commencé à rouler en boule les chaussettes de mon père et à prendre des tirs imaginaires victorieux, j'ai su qu'une chose était vraie, j'étais tombé amoureux de toi.
Il entraînait aussi l'une de ses filles, Gianna, 13 ans, elle se trouvait avec lui lors du crash de son hélicoptère. New York, Loïc Loury, France Inter.
Jacques Monclar, il se peut ce soir que nombre d'auditeurs de France Inter ne sachent pas vraiment qui était Kobe Bryant. Qu'est-ce que vous, Jacques Monclar, vous pourriez ajouter à ce portrait en quelques mots pour expliquer qui était ce Kobe Bryant ?
Je dirais que d'abord c'est un fils d'eux, parce que même si son papa n'a pas eu une immense carrière NBA, il a beaucoup joué en Europe et Kobe l'a suivi en Europe. Il avait notamment 4-5 mois en France, à Mulhouse, et puis très longtemps en Italie. Il était d'ailleurs resté très lié à l'Italie. Les prénoms de ses filles en témoignent.
Et, son père s'appelait Joe, c'est ça, hein?
Joe Billy Bean.
Joe Billy Bean, c'est ça, exactement.
Jelly Bean.
Jelly Bean.
Bryant.
Donc joueur de basket en Europe,
voilà,
notamment.
Et cette double culture et cette connaissance du sport, du football, le Milan AC, il adorait.
Oui.
Eh bien, fait de lui quelqu'un qui était ouvert au monde. Et moi, je garderai un souvenir au-delà du terrain, au-delà de tout ce qu'il nous a offert, qu'on a eu le bonheur de voir. Je garderai le souvenir de son sourire au défilé olympique à Pékin. Il est double champion olympique aussi. Il irradiait et il était la superstar. Les gens venaient vers lui. C'était d'ailleurs un défilé où il y avait 5 basketteurs porteurs de drapeaux, ce qui n'a jamais été le cas de la France. Il était tellement investi dans plein de choses, la FIBA, la Fédération Internationale. Il était le parrain de la Coupe du Monde de basket. Il était quelqu'un qui a d'abord été, je dirais, dans la première partie de sa carrière, Kobe contre le reste du monde. Et dans la deuxième partie de sa carrière, venez avec moi, on va faire des choses et on va gagner. Voilà. En peu de mots, c'est ça pour moi, Kobe Bryant.
Maxime Manet, vous êtes journaliste au journal L'Équipe. Pendant longtemps, vous avez été le correspondant du journal aux États-Unis. L'impact de la mort de Kobe Bryant il y a un an était très fort aux États-Unis. On a vu beaucoup de fresques murales, par exemple, surgir dans toutes les villes des États-Unis. Qu'est-ce qu'il incarnait de particulier pour qu'il y ait une telle émotion aux États-Unis, ce Kobe Bryant, Maxime Mallet?
Ben, il incarnait la gagne. Il incarnait une façon de gagner, une façon de travailler, de se préparer. On l'a eu dans le son où il dit travailler le matin, le soir, quand on est fatigué, etc. Donc c'est ce qui est devenu un petit peu marketé maintenant, la Mamba mentality, la mentalité du Mamba, du Black Mamba, ce serpent qui était devenu son emblème. Et donc voilà, c'est ce travail, cet investissement, cette capacité à se dépasser pour un seul objectif, la gagne.
Yann Onona, vous êtes vous grand reporter à L'Équipe et auteur d'une très bonne biographie consacrée à Kobe Bryant aux éditions Solar. Jacques Monclar l'a déjà évoqué. Très vite, il va grandir, non pas aux États-Unis mais en Europe, Kobe Bryant, parce que son père jouait notamment dans des équipes italiennes. Et là, vous racontez que quasiment tous les deux jours, ses grands-parents américains lui envoyaient des cassettes VHS enregistrées des matchs de la NBA sur la télévision américaine qu'il décortiquait avec son père en Italie. Et on s'aperçoit à travers votre livre que, loin de chez lui, loin de ses idoles, il est devenu obsédé par le basket américain, au point de tout décortiquer. C'est-à-dire que, sans doute que là, naît quelque chose chez lui en Italie, avec ses VHS reçus au fur et à mesure, une connaissance du basket qui devient presque scientifique.
C'est exactement ça, c'est scientifique. Et je pense qu'il y a quelque chose de fondamental pour comprendre la personnalité de Kobe Bryant, c'est l'imitation. C'est un roi de l'imitation, et j'ai envie de dire de la mimesis. C'est-à-dire qu'il est devenu expert pour imiter les autres. Donc il regardait les matchs, et même quand il avait 4 ans, 5 ans, avant de partir en Italie, il répétait encore et encore les mouvements et les gestes qu'il voyait. Et il les faisait siens. Et en Italie, il pratiquait beaucoup, comme il n'avait pas de copains, qui ne parlaient pas encore italien au début des années qu'il a passé là-bas, il pratiquait le shadow basket. C'est-à-dire donc du basket un peu...
Seul.
Voilà, tout seul. Et donc on pouvait le voir
avec des ombres autour de lui, un shadow basket.
Voilà, exactement. Donc il était tout seul en train de répéter des mouvements, et parfois même sans ballon. Shaquille O'Neal a raconté ça une fois, son coéquipier aux Los Angeles Lakers, il a raconté qu'il le voyait jouer tout seul sans ballon et qu'il comprenait pas trop, qu'il avait l'air complètement fou. Bah, Kobe, c'était ça. Il avait cet art du mimétisme qu'on va voir plus tard quand il va imiter tous les mouvements et les techniques de Michael Jordan. Mais pas que, puisqu'il a commencé par imiter son papa, Joe Jellybean Bryant. Donc, il enregistrait tout ce que faisait son père. Il le suivait comme une ombre, c'est le cas de le dire, aux entraînements, aux matchs. À la mi-temps des matchs, il allait shooter devant les publics qui étaient un peu...
Parfois, il défiait les partenaires de son père sur le terrain.
Tout le temps.
Mm-hmm. Alors qu'il était, il avait 10 ans, 12 ans.
Oui. La période où ils sont à Mulhouse.
Parce qu'après l'Italie, ils sont allés jouer une saison. Enfin, le père de Kobe a joué une demi-saison à Mulhouse.
Et il venait shooter avant, après le match. On se demandait qui était ce petit bonhomme.
Ah, mais vous l'avez vu faire ça, Jacques?
Oui.
Ah oui, d'accord. Vous l'avez vu, effectivement, à Mulhouse shooter le petit bonhomme à la mi-temps.
L'entraîneur de son papa, c'était Chris Singleton.
D'accord.
Travailler avec nous.
Bien sûr.
Alors, imiter, mimétisme, oui, c'était un buvard. Mais au-delà de faire les gestes, il mettait en œuvre tout ce qu'il fallait pour faire les gestes. C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire qu'il faisait comme Michael Jordan. Mais dans l'histoire, personne n'y est arrivé à part lui. Et on parle avec Michael Jordan du meilleur joueur de l'histoire. Et il s'infligeait, et quand il a été blessé, j'ai un souvenir aussi qui me revient, quand il se pète le tendon d'Achille, il a deux lancers francs à tirer. Et ben, tendon d'Achille pété, il est allé sur la ligne, certes c'est une phase arrêtée de notre sport, il a mis ses deux lancers, et en boitant le moins possible, il est rentré sur le banc, et là, je suis sûr que dans sa tête, il pensait au moment où il allait revenir et tout ce qu'il allait faire pour revenir. J'en suis certain.
Il y a même un truc, au moment où son tendon casque, en 2013, il reste longtemps assis. En fait, on le voit tâter son tendon avec sa main. Et il le raconte après. En fait, il essayait. Il comprend évidemment que...
Il y a le trou.
Voilà, oui. Il y a le trou. Mais
le tendon
essayé.
A lâché. Donc
Il raconte après qu'il essaye de rattacher son tendon. Donc ça n'a aucun sens.
Dès qu'on voit
un sportif victime de cette blessure, les sportifs se tordent de douleur. Ben non, lui, effectivement, il s'est relevé. Il s'est relevé, puis il allait shooter des lancers francs. Au point que les gens ne pensaient pas que c'était ça, la blessure. Parce que ça, c'était absurde.
Maxime Mallet, en 1992, les Bryant vont rentrer aux États-Unis, vont rentrer à Philadelphie. Le petit Kobe va rentrer au lycée Lower Merion, je crois. Et il va devenir évidemment un crack du basket. Mais il n'a pas des qualités athlétiques si développées que ça, par ailleurs. Et surtout, pour bien comprendre ce qui se passe aux États-Unis, quand les grandes franchises, les grands clubs recrutent chaque saison, elles vont taper, entre guillemets, dans les équipes universitaires. Or là, en 1996, il se passe une chose assez inouïe, c'est que les Los Angeles Lakers, qui est un des grands clubs mythiques américains, ils vont aller recruter Kobe Bryant, qui est encore seulement, j'ai envie de dire, lycéen. Et ça, c'est pas anodin, Maxime. Qu'est-ce que ça raconte de la vie de Kobe Bryant?
Ça veut dire qu'on plaçait en lui des espoirs qu'on plaçait en très très peu de joueurs. C'est vrai que il a lancé ce mouvement sur une certaine période, hein, puisque c'était autorisé pendant une certaine période d'aller chercher les joueurs de lycée. Et beaucoup de franchises se sont dit qu'elles allaient trouver un Kobe Bryant, un joueur de ce niveau-là, en allant le chercher le plus jeune possible. Beaucoup se sont cassés les dents. Donc voilà, il a laissé croire qu'en fait, on pouvait être à 18 ans quasiment prêt à jouer en NBA, alors que non, c'était très très peu de joueurs qui avaient cette capacité-là, physiquement et mentalement, de pouvoir intégrer cette ligue aussi jeune.
Maxime, pourquoi il s'appelle Kobe? Est-ce qu'on sait pourquoi il s'appelle Kobe Bryant?
Je pense qu'il y a une petite histoire avec le bœuf de Kobe, hein, donc Kobe en prononciation
américaine. Kobe, voilà, Kobe, le bœuf de Kobe, oui d'accord.
Que son père avait apprécié, Yann peut confirmer ça.
Yann, Onona.
Oui, c'est exactement ça, il a dégusté un très bon bœuf de Kobe dans un steakhouse dans la banlieue de Philadelphie.
C'est une histoire américaine, hein. C'est un destin américain.
Et donc avec sa femme, ils se sont dit, Kobe, c'est un joli nom.
Et Kobe Bryant, du coup ça crée aussi, ça ajoute un peu aussi à la spécificité du joueur. Vous dites dans ce livre, Yann, qu'il associe deux choses qui sont intéressantes, je trouve. C'est qu'à la fois il a la discipline et l'assurance des privilégiés, ce qu'il est, il ne vient pas d'un milieu défavorisé, mais aussi la rage et l'agressivité de ceux qui n'ont rien. Et c'est peut-être ça son secret, c'est qu'il a les deux en lui, en vérité.
C'est un joueur, c'est une personnalité paradoxale. De toute façon, dans tout ce qu'il a entrepris, les gens l'aiment ou les gens le détestent. C'est le meilleur joueur, et c'est le joueur le plus collectif, ou celui qui comprend mieux le jeu, puis en même temps le plus égoïste. Tout le monde le compare à Michael Jordan, mais en fait, son idole de jeunesse, c'est pas Michael Jordan.
C'est Magic Johnson.
C'est Magic Johnson, dont il avait un poster taille réelle dans sa chambre en Italie, et c'est lui qui le voulait imiter au début.
Jacques Monclar, à la fin des années 90, les Lakers donc récupèrent ce jeune lycéen qu'on connaît pas trop, à vrai dire. Hein, il est encore sous les radars. Ils l'ont repéré, les Lakers, mais nous, on le connaît pas trop. Et en même temps, ils vont recruter un grand crack, Shaquille O'Neal, 150 kilos, un colosse. Et les deux ensemble, j'en appelle aux spécialistes du basket, vont devenir irrésistibles. C'est-à-dire que l'association des deux joueurs à la fin des années 90, début des années 2000, va créer un moment sans doute unique et inédit dans l'histoire de la
NBA.
Oui, il y aura trois titres. Trois titres de suite.
2000, 2001, 2002.
Voilà. Mmh. Et le Shaq et Kobe sont deux personnalités tellement différentes. L'un extraverti, rigolo et un peu feignant sur les bords, pour pas dire beaucoup.
Shaquille O'Neal.
Et l'autre, travailleur, totalement individuel, assez introverti, en tout cas, au début. Le Shaq et lui ont eu besoin de Phil Jackson, celui qu'on appelle le Zen Master.
Donc c'est le grand entraîneur, le coach de
oui,
Lakers.
Et qui humainement a eu peu d'égal dans l'histoire de la Ligue. Je ne parle pas de technique basket, je parle d'assemblage d'hommes. Peu d'égal, il a réussi.
Et presque de philosophie de jeu. Hein.
Oui, et de philosophie de vie aussi d'ailleurs. Oui. Il leur mettait par exemple en pleine séance vidéo, il mettait des images de la guerre du Vietnam, de manifestations à Tiananmen ou ailleurs. Il était capable d'ouvrir, il leur faisait visiter des musées, enfin bon, c'était quelqu'un d'assez spécial dans le coaching, et le Shaq et lui ont cohabité, et Kobe s'était trouvé, parce que celui qu'il prend, quand vous racontez à juste titre qu'il a été pris à Lower Marion, c'est Jerry West. Alors qui est Jerry West? Jerry West, c'est le logoman, c'est le symbole de la NBA, le petit bonhomme que vous voyez,
oui,
qui dribble, c'est lui. C'est un homme qui a été champion une fois avec les Lakers et qui a dû perdre cette ou huit finales, et qui a laissé l'image d'un gentleman, qui travaille encore aux Los Angeles Clippers un petit peu. Et il était le père basket de Kobe. Il a managé Kobe tout au long de sa carrière. Et le Shaq l'avait senti, donc ça a pété en l'air au bout d'un
jalousie.
Moment. Oui, jalousie. L'un donne la balle, parce que Kobe fatiguait ses coéquipiers. Au début, il était quand même très égoïste, très ce qu'on appelle perso. Et lui, il disait au Shaq, toi, tais-toi, mets tes lancers francs et essaye de pas grossir comme un gros goré en mangeant 5 poulets tous les jours.
Oui,
voilà, c'était
ça,
à peu près ça.
5 poulets par jour.
Oui. Oh oui, tranquille.
Yann, je rebondis sur les propos de Jacques Monclat. Évidemment, sur le terrain, une grande, grande complémentarité. Dans la vie, une grande incompatibilité. C'est-à-dire que là, on en sourit, mais ce que vous regardez dans le livre, c'est que plusieurs fois, enfin, ils ont fini par se détester, ils se sont réconciliés, mais ils ont failli vraiment se taper dessus. C'est-à-dire qu'il y avait chez Kobe, il l'insupportait, en fait, Shaquille O'Neal. C'était réciproque, d'ailleurs, je ne sais pas, mais vraiment, Kobe, là, on voit aussi une part d'ombre chez Kobe Bryant, quand même.
Oui, c'était des frères, tout simplement, c'était des frères ennemis. Enfin, voilà. Donc, ils se détestaient vraiment à certains moments, et à un moment, Shaq voulait tuer Kobe. Enfin, il l'avait dit comme ça à ses proches, hein, parce qu'en fait, il se répondait par presse interposée. Et plus le temps est passé, plus la haine et les dissensions ont grandi. Et donc, quand ça ne fonctionnait plus aux Los Angeles Lakers, quand ils ont commencé à perdre et que des contrats sont dû s'en mêler, qui va rester, qui va partir? On était en 2003-2004, ça passait plus. Et donc, ils s'envoyaient des pics par les médias. Et un jour, ils ont failli en venir aux mains à l'entraînement, au point que tout l'entourage des joueurs avaient dû s'y mettre à 3 ou 4 avec Horace Grant, les anciens, pour contenir Shaquille O'Neal, pour pas qu'il saute sur Kobe et qu'il se tape vraiment dessus.
Ouais.
Seulement 4. Yann, Jacques évoquait un côté entre guillemets feignant de Shaquille O'Neal. Là aussi, on a l'opposé impeccable chez Kobe Bryant, c'est-à-dire que c'est un dingue de travail. Il y a des anecdotes sur ses manières de travailler, c'est ahurissant. Il s'entraînait la nuit en vérité, c'était quasiment du non-stop Kobe Bryant.
Il s'entraînait, oui, alors quand on dit s'entraîner la nuit, souvent. Enfin, c'est pas une expression,
oui.
C'est-à-dire qu'il se levait
à 3h du matin.
Voilà, il se levait à 3h, il se levait à 5h. En fait, ce qu'il faisait, c'est que, comme il y a beaucoup d'embouteillages à Los Angeles, il se réveillait à 3 ou 4 heures pour être à la salle à 5h.
Du matin.
Voilà, pour pouvoir revenir chez lui à 7h30, 8h pour petit déjeuner avec ses filles et les emmener à l'école. Et puis après, il repartait à la salle. Donc c'est aussi pour ça, il disait j'optimise mon temps, j'ai un hélicoptère, il racontait ça parce que je peux pas me taper les embouteillages, je perds trop de temps, c'est pas parce que je suis riche ou que je suis...
Voilà, c'est que j'ai une famille aussi.
Non,
en fait.
C'est que je veux concilier ma vie sportive, ma vie de famille.
Vous racontez une anecdote sur les 3h du matin qui est assez intéressante, c'est qu'il avait, accepté de coacher un joueur. Vous pouvez la raconter cette histoire parce qu'elle est assez drôle.
Oui, c'est avec un O.J. Mayo qui était à l'époque genre le top lycéen de sa génération. Et il se retrouve donc dans un camp, dans une académie avec Kobe Bryant. Et donc, il prend son courage à deux mains, il va voir Kobe et lui dit « Kobe, est-ce que tu pourrais m'entraîner? Est-ce qu'on pourrait faire une séance ensemble ?» Kobe lui dit « Ok, pas de problème, OJ, on se retrouve à 3h. » Et puis en fait, le lendemain, OJ Mayo est prêt, évidemment, il a son sac, mais Kobe ne vient jamais. Et quelques heures plus tard, il le retrouve à l'académie et il lui demande « Mais Kobe, t'étais où ?» Et Kobe lui répond, bah, c'était 3h du matin, j'étais là en fait, c'était pas 3h de l'après-midi.
Jamais.
Voilà.
C'est que 3h du matin.
Et c'est juste un exemple, en fait, il y a des dizaines d'histoires comme ça remonte au lycée. Hein. Au lycée déjà, il entraînait ses coéquipiers à 5h du matin, avec Team USA. Team USA, ça a été la même chose en 2008, qui est un peu le shift de sa carrière, le moment où il redevient, il arrête d'être un vilain, entre guillemets, un méchant, et il redevient un peu un joueur flamboyant. Bah, il va entraîner tous les joueurs de Team USA qui craignent ce personnage, qui ne le connaissent pas si bien que ça, il va les entraîner sur des sessions matinales qui vont souder le groupe, en fait. Donc c'est une marque de fabrique, l'éthique de travail.
On va faire une pause musicale avec une toute nouvelle chanson de Dominique A, le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Les Éveillés.
Si je ne te regarde plus, tu disparais si tu fermes les yeux. Je m'évanouis, il faut se tenir éveillé. Jour et nuit, si tu t'endors, je te réveillerai si tes yeux me quittent un instant. Disparaît si je me retourne soudain. Tu n'existes plus, nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue, nous n'avons pas le choix. Et tu le sais, et même si tout concourt autour, d'autres regards peut nous éloigner. Il n'est pas question que l'amour vienne à manquer si tu restes éveillé. Je peux le faire, je peux ne plus rien voir autour.
Les mémoires. Kobe Bryant a réalisé un exploit hors norme.
Philippe Collin.
81 points en cours d'un seul match. Au pays de la statistique reine, le meneur des Lakers s'est fait une place dans l'histoire de la NBA. Mené et malmené par Toronto, les Lakers ont pourtant mis du temps à réagir. Enfin les Lakers, disons plutôt Kobe Bryant à lui tout seul. Il inscrit les deux tiers des points de son équipe. Il va juste caler sur la performance de Will Chamberlain. 100 points avec Philadelphie, c'était en 1962. Autre temps, autre exploit.
Sur France Inter.
À l'aube des années 2000, le jeune Kobe Bryant marche sur l'eau. Gamin, il rêvait de devenir une vedette du basket américain et voilà qu'il a remporté 3 titres consécutifs en NBA avec son équipe des Los Angeles Lakers. La gloire. Adulé, à 24 ans, il est riche comme Crésus, marié et un père comblé. Seul au tableau, un genou capricieux. Il faut opérer pour préserver l'avenir radieux. Nous sommes en 2003, direction la clinique réputée d'Eagle, dans le Colorado. Le séjour s'annonce bref et sans encombre. Il va se révéler chaotique.
Un surdoué du basket, une star de l'équipe des Lakers de Los Angeles. Kobe Bryant n'intéresse plus la presse aujourd'hui pour ses exploits sportifs, mais parce qu'il est accusé de viol. Les faits se seraient déroulés en juin dernier dans cet hôtel chic d'Eagle, une ville du Colorado. Le basketteur de 24 ans aurait abusé une jeune femme de 19 ans qui a porté plainte. Arrêté, Kobe Bryant a subi des tests ADN avant d'être relâché sous caution. Avec son avocate, il a tenu à affronter les médias. Main dans la main avec sa femme, très tendue, Bryant a reconnu l'adultère, mais pas le viol.
Je ne l'ai pas forcé à faire quoi que ce soit contre sa volonté. Je suis innocent.
Bryant devra être présent devant la cour d'Eagle pour entendre les faits qui lui sont reprochés, une audience très attendue par les médias. Samedi dernier, le basketteur a fait une apparition publique pour une soirée de la chaîne musicale MTV, une remise de prix à des stars désignées par des adolescents. Malgré ses démêlés judiciaires, l'idole des jeunes y a été acclamée.
Yann Onona, je rappelle que vous êtes à la fois journaliste à l'équipe et auteur de cette biographie consacrée à Kobe Bryant. Donc le voilà, Kobe, en 2003, accusé de viol. Comment va se solder cette affaire judiciaire, Yann ?
Elle va se solder par un accord entre les deux parties. Et c'est
à l'américaine, on a envie de dire.
Exactement, à l'américaine, il n'y aura jamais de véritable procès. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'à la fin, on a deux faits, si on veut rester factuel. Le fait que les deux parties s'entendent, sont d'accord sur le fait qu'ils se sont embrassés. Par contre, tout ce qui se passe derrière, évidemment, d'un côté, on a Kobe Bryant qui dit « Moi, même si je pense que la relation était consentie, je comprends que la demoiselle n'est pas d'accord. » Voilà.
Mais c'est une réponse assez ambiguë et compliquée. Hein.
Oui, et de toute façon, c'est une réponse juste verrouillée juridiquement
par
rapport à l'accord qu'ils ont passé entre eux, en fait. Donc en réalité, pour toucher la vérité de ce qui s'est réellement passé, c'est strictement impossible aujourd'hui. C'est impossible.
Dans la foulée de cette histoire-là, où il devient très très seul, parce qu'évidemment, les sponsors commencent un petit peu à le lâcher, les médias, pareil... Il a vu Kill Bill de Quentin Tarantino et il y a un personnage central qui est donc Black Mamba, qui est une sorte de tueuse. Et il va endosser ce totem de Black Mamba pour changer de peau, j'imagine, et pour se protéger. Mais du coup, il endosse aussi le rôle du méchant. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça jusqu'à présent. Il va assumer, mais là aussi c'est ambigu par rapport au viol, mais il va assumer le rôle du méchant. Il va te dire... Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais devenir méchant. C'est assez particulier comme choix de carrière en 2003.
C'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'il le formule lui-même plus tard. Il explique que le Black Mamba, c'était une manière de changer de peau, de sortir un peu, de s'extraire de tout ce qui était en train de lui tomber dessus pour prendre un nouveau départ et assumer, même réclamer la haine. Il le dit comme ça, il dit « j'avais besoin », et il en reparle quand Shaquille O'Neal va partir sur le plan purement sportif. Il dit « j'avais besoin que tout le monde me haïsse. J'avais besoin de repartir de zéro ».
Maxime Mallet, vous êtes vous également grand reporter à l'équipe. Vous avez été correspondant aux États-Unis pour le journal. Comment est perçue aux États-Unis cette figure du Black Mamba véhiculée par Kobe Bryant ? C'est bien reçu chez le public américain, ce côté méchant ?
Oui, aujourd'hui, en fait, il y a eu une grande évolution et une grosse évolution aussi vers la fin de sa carrière sur la façon dont il s'est comporté. Il y a eu une période où c'était le méchant, donc hormis les fans des Los Angeles Lakers. Plus ou moins tout le monde le haïssait et il avait droit à des accueils plutôt, on va dire, chaleureux, entre guillemets, dans toutes les salles du pays. Et puis, sur la fin de sa carrière, il a basculé, il est devenu quelqu'un qui était prêt à partager sa philosophie, sa technique, un peu tout avec les jeunes joueurs et un petit peu avec tout le monde. Il est devenu quelqu'un qui aime raconter des histoires, qui aime partager.
Une forme de transmission. Donc, on sent qu'il a trouvé une sorte d'apaisement dans la transmission, Kobe Bryant. Ça a été une sorte de maturité, sans doute, non, Jacques Monclar. C'est que tout d'un coup, il s'est dit, j'ai acquis, je peux peut-être redistribuer et transmettre.
Déjà, dans la haine qu'il a reçue, qu'il voulait, il y avait aussi tous les fans absolus de Michael Jordan qu'il détestait. Parce que on disait il est aussi fort que Michael Jordan, ce que les fans
ils
de
veulent
MJ
le dépasser.
N'ont jamais
ah vous dites MJ oui vous pour Michael Jordan vous dites MJ oui, oh, oui.
Il en a plein de noms,
oui,
sa majesté. Ernest oui. il y en a des noms. Il voulait ça et ça, on le retrouve dans ses numéros, le 8 et le 24. Il y a le Kobe du 8 dont on peut ne pas être fan. Je connais peu de gens qui ne sont pas fans du 24.
Ouais, il y a eu une transformation. La mue du serpent, quoi.
De l'homme.
Ouais,
transformation
le Black
de l'homme. Et qui est devenu, certes, quelqu'un qui aime entraîner, certes, quelqu'un qui aime transmettre, mais qui est devenu un mentor. Novak Djokovic. Juste Novak Djokovic. Venez prendre conseil. Kobe, c'était devenu le roi pour optimiser tout ce qu'on fait en sport. Et pas sa génération, pas celle d'après, mais la suivante. Les Jason Tatum, les Trae Young, les Gordon Hayward, tout ça, ce sont des joueurs qui sont venus, il y en a plein d'autres, qui sont venus prendre conseil auprès de lui. Se faire coacher par lui.
Jacques, pendant le disque, on évoquait cette rivalité Kobe Bryant-Michael Jordan. Il a eu envie de dépasser Jordan. On ne sait pas s'il l'a dépassé ou pas. Les stats sont plutôt en faveur de Jordan. Malgré tout, il y a 6 titres contre 5, par exemple, en NBA. Bon. Mais vous m'avez dit une chose, là, pendant le disque, vous m'avez dit, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est plus intelligent que Jordan.
Ah, mais c'est un garçon d'une intelligence supérieure. Mm-hmm. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a été aussi dur avec tout le monde autour de lui. Mm-hmm. Il a même dégagé le coach à qui il doit tout. Il l'a fait foutre dehors, ouais, pour le faire reprendre après, d'ailleurs.
Là, on parle de Phil Jackson, c'est ça ?
Oui, de Phil Jackson, parce qu'il y a eu le Shaq qui a été évacué vers Miami et qui couille sur la tête de Kobe et champion l'année suivante.
En 2006.
En 2006, avec Miami. Il fait mettre dehors Phil Jackson et pour regagner les deux titres qu'à mon avis, il a le plus chéri. Les titres de 2009 et 2010, c'est bien ça.
Avec Pau Gasol,
avec
c'est ça.
Avec Pau
Gasol, pardon, excusez-moi.
Avec cette équipe, et c'est encore Phil Jackson qui est là. Il avait besoin de ça, et puis il y a son dernier titre, c'est un clin d'œil à l'histoire. Il est contre Boston.
Les Celtics.
Lui qui est enfant de Los Angeles, invirable. Parce que Shaquille O'Neal, on en parlait tout à l'heure, il avait joué à Orlando avant. Kobe est né à Los Angeles comme, en tant que basketteur, et il est parti à Los Angeles.
Ah oui.
Toute sa carrière. C'est rare, ça aussi, dans la vie d'un sportif.
Yann, par ailleurs, malgré lui, parce que la fin est tragique, hein, mais il a vécu toutes les étapes du mythe états-unien. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'ascension, la gloire, la chute, on en a parlé, puis la mue, la rédemption, le pardon, hein, la résurrection. Et la mort tragique. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte une histoire américaine. C'est-à-dire qu'il s'inscrit quasiment dans des mythes qui seraient Kennedy, Monroe, et bien d'autres, et Kobe Bryant. C'est-à-dire qu'il a, il a ça malgré lui. Et James Dean, bien sûr, il a ça malgré lui. Mais c'est vrai que tout d'un coup, cette mort tragique vient aussi coiffer un mythe désormais.
Oui, je pense que c'est ce que disent, hein, les fresques murales que vous évoquiez en début.
Il y en a de très belles dans votre livre. Il y en a de très belles fresques qui sont photographiées dans le livre.
Oui, parce qu'en fait, c'est pas uniquement à Los Angeles. En fait, ça fleuri dans le monde entier. Il y en a plusieurs en France, hein, à Paris, on en a vu, je crois, vers Avignon. Enfin, il y a pas mal de
photos. Dans le monde entier, oui.
Et donc, il y a des sites qui recensent toutes les fresques dédiées à Kobe Bryant et à sa fille Gianna.
Oui, qui est morte, évidemment, dans l'accident d'hélicoptère, ouais, également.
Et quand on parle de Los Angeles, c'est carrément l'âme de la ville. Hein, c'est vraiment l'âme de la ville. Mais effectivement, c'est devenu un mythe. C'est une icône populaire, culturelle.
Avec un Oscar Hollywood en plus, décroché pour un court-métrage qu'il a fait juste à la fin de sa carrière de basketteur.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un poème qu'il a écrit au basketball.
Dia Basketball. Voilà. Il a décroché l'Oscar du court-métrage. Voilà. Jacques, j'en appelle à votre sagesse et à votre grande expérience. À l'origine, je crois que le basket est un sport collectif. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, avec l'expérience que vous avez eue en tant que joueur, entraîneur, puis maintenant commentateur, que c'est devenu un peu un sport individuel ? Je m'explique, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui que l'ego emporte beaucoup sur une équipe. Peut-être que je me trompe, c'était peut-être déjà le cas à l'époque. Mais j'ai quand même le sentiment que tous ces joueurs dont on a parlé sont des individualités dans un collectif, mais que le collectif passe un peu derrière. On entend de moins en moins parler des coéquipiers. Kareem Abdul-Jabbar, par exemple, qui s'est un peu éloigné du basket, a souffert sans doute de ça, un petit peu aussi, de cette starification. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques, de ça ?
Mais j'en pense d'abord très rapidement.
Ah.
Ce qui veut dire que je vais être long.
Maître Jacques va s'exprimer.
Le basket se joue avec les mains, avec un gros ballon sur un petit terrain à 5. Donc on est le plus individuel des sports collectifs, déjà, pour commencer.
Très bien.
Un joueur peut faire une différence majeure. Mais je ne pense pas qu'un joueur gagne tout seul, et j'en suis même sûr. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut être en attaque et en défense. Et qu'autour... On dit Michael Jordan, on dit Scottie Pippen, on dit Kobe Bryant, on dit Shaquille O'Neal, on dit Kobe Bryant, on dit Pau Gasol, on dit Steph Curry, on dit Klay Thompson.
On dit Magic Johnson, on dit Kareem Abdul-Jabbar.
Voilà, on est obligé. Et pendant un temps, on parlait de duo, mais on dit Tim Duncan, on dit Manu Ginobili, Tony Parker. C'est plus sûrement à 3 qu'on est champion qu'à 2. Mm-hmm. Alors bien sûr qu'il y a des joueurs qui éclaboussent. Mais un basketteur, c'est pas que quelqu'un qui met des points, des contres, des interceptions. On fait des courses, on fait des décalages, on fait le travail de l'ombre, le dirty work, comme ils disent. Et on a besoin de ça. Et ça, Kobe a mis un moment à le comprendre. Ça, c'est le Kobe du 8. Le Kobe du 24, il a toujours valorisé ses coéquipiers. Et ces grands joueurs-là sont encore plus immenses quand il rend bon les joueurs à côté de lui. Et tous les joueurs qui ont joué à côté de Kobe en deuxième partie de carrière, et c'est un point commun avec Michael Jordan d'ailleurs, tous les joueurs ont progressé à ses côtés. Tous les joueurs se sont valorisés à ses côtés. Et ils ont valorisé aussi leur franchise et ils ont régalé le public. Ce sont des joueurs qui font partie de ces gens qu'on paye pour aller voir jouer. Voilà, on paye pour passer un moment avec eux.
Maxime Mallet, vous étiez au dernier match, hein, je crois, de Kobe Bryant lors de son départ, on va dire, de la sphère basketball. Quels souvenirs vous en avez ce soir et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à ce match-là?
C'est un souvenir assez incroyable. C'est un match où les Lakers sont éliminés. Il y a aucun enjeu pour eux, sauf la dernière de Kobe, qui joue face à Utah, qui avait une maigre chance de se qualifier, mais qui avait pas son destin en main. Et donc vers la mi-temps, on sait que Utah n'a plus la moindre chance. Donc il y a un match. Kobe a fait une première mi-temps un peu poussive, beaucoup de tirs.
On
lui donnait tous les ballons, il tentait tout, un peu tout et n'importe quoi. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de magie qui s'est emparée de l'endroit. Kobe a commencé à rentrer les tirs, un peu tous les tirs, même dans des situations incroyables, à faire des séries où il était le seul à marquer. La salle s'est complètement enflammée et puis il a fini la soirée en offrant la victoire aux Lakers, en marquant 60 points et en ayant pris 50 tirs. Alors c'est la première fois qu'il a pris autant de tirs. Et pour l'anecdote, il a du coup battu le record de Michael Jordan en matière d'un tir, puisque le record de Jordan en carrière, c'était 49 tirs. Et donc voilà, il a passé après une conférence de presse d'une demi-heure, qui pour ceux qui parlent anglais, je pense qu'on peut la retrouver sur YouTube, où il résume énormément. On voit que voilà, tout le côté cérébral est là, parce qu'il explique sa carrière, ce moment et son après-carrière avec les mots justes, avec du recul. C'est un moment qui le résume assez bien aussi, cette demi-heure de conférence de presse où il est venu avec son maillot des Lakers. Il n'a pas voulu l'enlever avant, il a voulu enlever son maillot le plus tard possible ce soir-là. Donc il avait fait par exemple toute sa conférence de presse encore avec son numéro 24 sur le dos.
Yann Onona, est-ce qu'il y a une dimension politique chez Kobe Bryant? Est-ce que après avoir été un tel modèle, une telle vedette, une telle incarnation de son sport aux États-Unis, est-ce qu'il a une conscience politique, Kobe Bryant?
Absolument, et beaucoup plus que son icône de jeunesse Michael Jordan, qui s'est jamais vraiment engagé, ou en tout cas jamais assez. Même s'il le fait aujourd'hui dans des proportions assez conformes à sa fortune, et puis parce qu'il a changé de ce point de vue-là. Non, Kobe Bryant a été très il a toujours dit ce qu'il pensait, et je pense que ça s'est vu surtout dans l'après-carrière. Après, pendant sa carrière sportive, il a toujours été concentré comme ça sur son jeu, sur son art.
Mais j'ai quand même le souvenir que, y compris dans sa carrière, je me souviens d'un t-shirt porté, le I Can Breathe, qu'il était encore joueur et qu'il faisait écho à ce afro-américain qui avait été étouffé par la police américaine. Il avait au moment de l'échauffement sur le parquet, il portait un t-shirt I Can Breathe. C'est quand même pas
le premier, le tout premier.
En 2016, exactement.
En 2016. Mais c'est
Jacques Monclar,
d'une intelligence supérieure. Yann a totalement raison, Maxime aussi, quand le mot cérébral lui convient et dans tout. Il parlait pas pour rien dire, et quand il sortait, parce qu'il était pas toujours facile avec les médias. Moi, j'ai le sentiment que sa dernière saison, d'abord les deux matchs où il fait ses cartons, ils les ont gagnés, déjà. Ça, c'est quand même fondamental. Et ensuite, dans sa dernière saison, ce qu'on peut appeler sa dernière danse, ou sa dernière valse, comme vous voulez, il s'est rendu compte à quel point on l'aimait, alors que lui, il a toujours cru qu'il était détesté par tout le monde. Et il a compris l'amour des fans, il a compris le respect des autres, même ceux à qui il avait été horrible, dans sa dernière saison. Et ça a complètement changé, et tout ce qu'il a fait après de manière trop brève, même si j'ai encore du mal, moi, à imaginer qu'il soit plus là, eh bien, ça a été par ça aussi, par cette évolution. Et vous parliez de politique. Qui sait s'il n'aurait pas été amené à un destin supérieur? Schwarzenegger a bien été gouverneur de Californie.
Bien sûr, pourquoi pas?
Qui sait ce qu'il aurait fait?
Il fait partie des personnalités, quelques-unes en NBA, comme le coach de Golden State, Steve Kerr, ou Greg Popovich, celui de San Antonio, à qui on pose régulièrement, ou on posait régulièrement
politiques.
La question, est-ce que ça vous intéresserait pas d'être président, d'être maire,
gouverneur pour commencer?
Et qui ont le charisme.
LeBron finira avec un poste dans l'Ohio, c'est à peu près certain.
En tout cas, merci à vous trois, messieurs, d'être venus ce soir. Je rappelle que vous pouvez lire la biographie de Kobe Bryant disponible aux éditions Solar. C'est co-signé par Yann Onona et Thomas Bergeron. On dit Bergeron, c'est bien ça, aux éditions Solar. Vous retrouvez Maxime Mallet dans les colonnes de l'équipe et profitez de la maestria de Jacques Monclar sur les antennes de Beansport. Lorsqu'il commente, entre autres, les matchs de la NBA. Merci, Yann Jacques. C'est un
Tom,
très bon livre.
Yann et Tom ont fait
un très bon bouquin.
Un magnifique boulot.
Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Salut.
One. Peace. We come in peace. From the west to the east, north to the south, in the belly of the beast. One, two. It feels like
it was only yesterday.
Don't be sitting, watch the sky turning ever gray. Black and white, watching money leading men astray. Falling in and out of light as the heavens spray. We mix the whiskey with the lemonade. Trying to counteract the methylphenidate. Used to laugh when I said it made my belly ache. My belly ached every day, yo, it never changed. I wasn't ready for the grave. But I was ready to be paid. Trust, I know we're never getting saved. 24 mixed race, living 12 years a slave.
My
grandfather getting knuckled by the pepper spray. More faggot breaks the riot like a renegade. Seeing him setting fire to rain as the letters fade. No doubt I was raised out the south. Tell your ex-boyfriend to keep my name out his mouth. I've been in and out to drag the pain out the house. Being brave, something proud, say my name, I'm a bow.
Here comes the time. Everyone's like, when you have to fall in love, once or twice.
Really feels like
it was only yesterday.
Back when I thought I'd never touch the motherland. Because my skin's a different colour to them other men. But still they're calling me the coloured man. So you can find me in a straight peanut butter jam. Sticky, make a finger snap like a rubber band. We expand like a grand in another hand. Melts like butter in the pan as the others ran. Damn, but me got stuck around. No doubt, pull the finger out, flabber in the ground. Down south, know what I'm about, just another clown. Red snout running in the mouth in another town. Drown.
Yesterday, chanson signée Loyal Carner. On poursuit en musique avec la victoire en chantant le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, la guerre cathodique. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, de quoi souhaitez-vous nous parler ce soir ?
De musique, de télé et de foot. Car ce soir, Nantes accueille Monaco. Or, le 9 novembre 1984, Nantes-Monaco avait justement été le premier match de l'histoire du championnat de France retransmis sur Canal+. Alors qu'un appel d'offres est en cours au sujet de la diffusion de la Ligue 1, il m'a semblé intéressant de raconter en chanson comment la chaîne cryptée a bouleversé le traitement du ballon rond en France.
Je suis pas sûr de vous suivre, mais bon, allons-y.
Bon, on commence notre voyage dans le temps avec un titre des années 80, intitulé « La troisième mi-temps », interprété par le groupe Carton Rouge, au sein duquel vous reconnaîtrez Thierry Roland, qui était alors la voix du foot sur TF1.
Il y a le président qui veut parler, mais personne ne l'écoute.
Il s'assoit et pour se consoler, il rajoute une petite goutte.
Il est bientôt 3 heures du mat, on a encore un long chemin.
Allez, chauffeur du car, cube son picrasse, on rentrera demain.
Bien. Alors, y a-t-il un rapport entre Canal+ et ce qu'on vient d'entendre ?
Absolument aucun. Si ce n'est que, d'une certaine manière, Charles Bietri, le premier directeur des sports de Canal, a créé son service en opposition totale avec ce que cette chanson reflète, à savoir le côté gouailleur, voire un peu beauf, de Thierry Roland, qui était attachant en raison même de ses approximations.
Oui.
Bietri exigeait au contraire que ses commentateurs fassent preuve d'une rigueur totale à l'antenne.
Alors, révolution éditoriale, mais pas que, Pierre-Étienne. Charles Bietri a imprimé un style.
Oui, il a aussi fait évoluer la manière dont les matchs étaient filmés et présentés à la télévision, en les introduisant avec des séquences souvent spectaculaires. Dans le même esprit, sur Canal, les génériques des émissions de foot ont toujours fait l'objet d'un soin particulier. Ma préférence va vers la musique signée David Hallyday qui accompagnait Jour de foot à la fin des années 90. Elle me fait encore frissonner aujourd'hui. Et dans le contenu même de ces émissions de foot, Canal était très novatrice. Totalement. La chaîne cryptée a su renouveler constamment son traitement magazine en y ajoutant toujours plus d'infos et de divertissements. Avec par exemple Fabulous Sport, un programme présenté par Darren Tulette et Isabelle Moreau entre 2007 et 2010 qui démontrait que le foot et la musique participent d'un même élan culturel. Dans Fabulous Sport, on pouvait entendre un chanteur nommé Georges interpréter un morceau à la gloire d'Arsène Wenger avec le rappeur Oxmo Puccino.
Ce soir, j'ai la classe d'un attaquant. Arsène fait de moi le plus grand. Ce soir, Arsenal, je joue la mi-temps. Comme un rêve, comme un grand.
Mon nom sur le maillot des Gunners.
Et alors, plus près de nous, comment le traitement du football sur Canal s'est distingué dans les années 2010 ? Je dirais par son impertinence notamment, à travers une émission comme J+1. Chaque semaine, le comédien Julien Cazard y taillait avec talent les acteurs de notre championnat. Ce qui a donné lieu en 2016 à une séquence culte. L'attaquant Guillaume Hoarau a détourné dans J+1 la corrida de Francis Cabrel pour répondre avec humour aux provocations de Cazard. On écoute.
Depuis le temps que je regarde J+1 le soir, j'entends qu'on s'amuse et qu'on rigole, et ça jusqu'à tard. Quelqu'un qui vanne un peu sur nous, on m'a dit que t'étais un chambreur. Julien Cazard, au fond, dis-nous, t'aurais voulu être footballeur. Non, tu n'es pas sérieux. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Il nous attaque à notre insu, je commence à comprendre. On avait déjà Pierre Ménez et maintenant toi qui te prends pour Coluche. Tes blagues sont pas meilleures que les miennes, t'inquiète pas, il m'en reste quelques-unes.
Il s'en sort bien, hein, Waro. Ouais. Franchement, c'est très réussi. Oui, on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu nostalgique en écoutant cette chanson. Parce que Cazard n'officie plus sur Canal+, pas plus que Stéphane Guy, qui présentait alors l'émission et qui a été viré de la chaîne il y a un mois. Permettez-moi, Philippe, de conclure cette chronique en lui adressant un salut amical.
Salut et fraternité au citoyen Stéphane Guy. En effet, à la semaine prochaine, Pierre-Étienne.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 21e émission de notre saison 6 a été mise en onde par H2M ce soir. Henri-Marc Mutel, merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Gilles Gaillard, merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec une histoire des skieurs italiens, le ski sur l'autre versant des Alpes. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.